Ce n'est pas parce que vous êtes créateur d'entreprise qu'automatiquement, vous ne devez pas vous intéresser aux ressources humaines. Alors oui, certes, vous n'avez pas forcément des besoins dans l'immédiat, mais dans cet épisode, vous allez découvrir les 10 éléments qui vont vous permettre de prendre une longueur d'avance sur votre concurrent et que vous pouvez faire sans vous en rendre compte. Je ne vous en dis pas plus et je vous laisse avec le jingle. Bonjour et bienvenue dans le nouvel épisode du podcast du blog mafuturerecrue.com. Le podcast pour apprendre aux entrepreneurs à mieux recruter eux-mêmes et à gérer leurs salariés. Je suis Emmanuel Chegrane et je suis ravie de vous accueillir. Je suis sûre que vous n'avez pas forcément compris le titre de ce podcast et c'est tout à fait normal. À première vue, comme ça, il n'y a pas vraiment de lien entre la création d'entreprise et les ressources humaines. Sauf que si. Potentiellement, peut-être si vous avez créé votre entreprise, c'est peut-être que vous travaillez complètement seul et que vous vous dites que peut-être vous serez freelance pendant un certain temps. Sauf que votre carrière professionnelle va automatiquement pivoter à un moment donné. Peut-être que vous serez même amené à recruter. Et en réalité, on ne se pose pas de questions sur les ressources humaines de façon générale à partir du moment où on pense qu'on n'en a pas besoin. Et on se concentre d'ailleurs sur les RH que quand on sait qu'on va recruter. Sauf que souvent, on ne met pas les actions en place et on est complètement précipité sur nos ressources humaines parce qu'on est dans un objectif d'efficacité. Alors aujourd'hui, je vais vous partager justement 10 éléments que vous ne devez pas négliger sur vos RH. Et ce, à partir du moment où vous créez votre entreprise. J'insiste bien, il y a énormément de choses que vous devez faire quand vous créez votre entreprise, je l'entends. Mais en fait, il y a des choses sur lesquelles vous devez travailler dès maintenant qui vont aider aussi votre entreprise à la faire grandir, à la faire fructifier, etc. Mais aussi qui va vous aider le jour où vous voudrez en fait tout simplement recruter. Je vous partage donc ces 10 éléments qui ne sont pas du tout dans un ordre de priorité. Hein. C'est vraiment 10 éléments là tels qu'ils me viennent, tels que je vous les ai notés sur ma liste. Le premier élément, c'est faire ses papiers. Faire ses papiers parce qu'en fait, on néglige souvent de faire ses papiers. Je le disais dans le podcast, c'est qu'en fait, en réalité, on est un peu hermétique à tout ce qui va être administratif. Si je vous parle de compta, ça va être un peu pareil. Et lorsqu'on crée son entreprise, surtout lorsqu'on la crée, on reçoit une multitude de paperasses chez nous et on ne comprend pas forcément qu'est-ce qu'il faut faire, dans quel ordre, est-ce que ça c'est une escroquerie, est-ce que ça c'est vraiment obligatoire. Et résultat des courses, on ne fait absolument rien. Sauf que parmi ces documents, vous allez avoir un document qui est important. C'est un document qui va être relatif à votre caisse de retraite. Alors, je rentre un peu dans le jargon, mais je vais simplifier au max les choses pour que ce soit vraiment clair. En fait, lorsque vous créez votre boîte, vous avez 3 mois pour choisir ce qu'on appelle une caisse de retraite. Alors, a priori, là tout de suite, c'est pas du tout problématique, ça vous pose pas aucun souci, c'est vraiment lorsque vous allez avoir des salariés. Mais en fait, cette étape-là, elle est à faire dans les 3 mois de la création de l'entreprise. Sinon, c'est votre caisse par défaut, en fonction tout simplement de votre code APE qui va être appliqué. La caisse de retraite, en fait, on cotise à la retraite à partir du moment où on a des salariés. Enfin, c'est eux qui vont cotiser, nous aussi en partie. Et en fait, la plupart du temps, on a le choix entre 2 caisses. Et je vous invite à choisir. Parce qu'il y a des caisses qui, malheureusement, sont plus efficaces que d'autres, qui ont des délais de réponse plus rapides, qui vont avoir un service client mieux. Et le souci, c'est qu'une fois que votre boîte elle est créée, vous ne pouvez pas changer de caisse de retraite, c'est impossible. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, j'avais un de mes clients qui était fleuriste. Il était fleuriste et en fait, il avait créé une entreprise, voilà, mais bien en amont, sur rien à voir avec la fleuriste, enfin le fait d'être fleuriste. C'était une boîte, je pense, d'ingénierie ou un truc comme ça. Enfin, je ne vais pas vous dire de bêtises, mais c'était une boîte, rien à voir avec le secteur d'activité. Donc en fait, il avait toujours le même numéro Siret. Et en fait, il a juste fait les modifications pour voilà, toujours avoir le même numéro Siret, mais changer juste d'activité. Dans la mesure où son entreprise avait été créée avec une caisse de retraite particulière, il n'a pas pu changer sa caisse de retraite parce que tout simplement, c'est impossible. Votre caisse de retraite, elle va être rattachée à votre entreprise ad vitam aeternam. Donc autant bien la choisir. C'est super important si vous voulez pas avoir après par la suite des problèmes de gestion tout simplement bête, mais tout simplement parce que vous n'allez pas avoir un système en face qui va répondre à vos attentes. Donc choisissez votre caisse de retraite
Si vous avez la possibilité de le faire, si peut-être là vous avez créé votre entreprise dans les 3 premiers mois, replongez-vous dans tous les papiers que vous avez reçus et choisissez, c'est hyper important. Le deuxième élément dont j'ai envie de vous parler et que personnellement j'ai découvert assez récemment, donc en fait je vous fais aussi part de mes découvertes au fur et à mesure, c'est le branding personnel. Alors je ne suis pas une experte du branding personnel, loin de là, je suis en train de me former tous les jours, à ce qu'est le branding personnel et comment est-ce que concrètement on l'applique dans notre quotidien. C'est en fait tout simplement créer une marque personnelle, voilà c'est la traduction en français, c'est créer une marque personnelle, c'est-à-dire que nous allons être nous-mêmes notre propre marque. Et je pense que lorsqu'on crée son entreprise, c'est quelque chose que l'on doit faire dès le début, sur lequel on doit se pencher, on doit dépasser certains freins pour tout simplement montrer qui on est, quelles sont nos valeurs, qu'est-ce qu'on croit, pour être complètement nous-mêmes et attirer peut-être des personnes qui vont nous ressembler. Pourquoi je dis des personnes qui vont nous ressembler ? Tout simplement parce que lorsque vous allez recruter des personnes, je l'espère pour vous, qui ont les mêmes valeurs que vous, avec lesquelles ça va matcher. Si ça ne matche pas, automatiquement, ça va être un peu compliqué pour vous de travailler. Si concrètement, vous êtes quelqu'un qui est très franc et qui va dire les choses, alors que la personne qui est en face de vous est hypocrite, ça va être un peu compliqué, vous voyez ? Donc, s'intéresser à son branding personnel dès maintenant, ça va vous permettre aussi de poser des mots sur vos valeurs, ce qui est très important. Troisième point qui va aussi un peu rejoindre ce que je viens de dire, dans le même ordre d'idée, c'est faire en sorte de créer aussi sa marque d'entreprise. Le branding personnel, la marque d'entreprise, c'est deux choses qui sont différentes. Branding personnel, ça va vraiment s'intéresser à vous en tant que personne, et la marque entreprise, c'est quelque chose qui va prendre du temps à construire. Mais c'est aussi un élément qui est à prendre en compte si vous voulez attirer les bons éléments dans votre entreprise. Si concrètement aujourd'hui vous ne faites rien au niveau de votre branding personnel, si vous ne faites rien au niveau de votre marque entreprise, ça va être compliqué pour vous le jour où vous allez devoir recruter, d'attirer les profils à vous. J'ai d'ailleurs fait un podcast, donc je crois que c'est le podcast 15, c'est le dernier podcast, je ne crois pas dire de bêtises, sur comment est-ce qu'on va créer sa marque d'entreprise de façon simple. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que souvent aussi d'ailleurs, on pense que une marque c'est un logo. C'est l'erreur fréquente que l'on fait, que j'ai d'ailleurs moi-même fait, c'est-à-dire que je me suis dit, bon, en fait, je vais créer un logo. C'est pas du tout comme ça qu'il faut procéder, il y a des étapes en amont à faire et vous pouvez le faire, créer cette marque d'entreprise, c'est facile, c'est pas compliqué, ça demande juste du temps, de la réflexion et c'est pour ça qu'il faut vraiment le faire en amont à partir du moment où vous créez votre entreprise. Le quatrième élément dont j'ai envie de vous parler, c'est le storytelling. Le storytelling, c'est en fait tout simplement l'art de raconter des histoires et du moins de se raconter. Ça va vous permettre aussi de vous différencier de votre concurrence et c'est aussi important pour vos RH parce que tout simplement, vous allez raconter une histoire, vous allez donner du sens sur ce que vous faites et vous allez aussi attirer des personnes qui vont être dans cette même démarche que vous. Donc c'est aussi important de travailler ce pilier-là. Le cinquième élément, c'est la culture d'entreprise. La culture d'entreprise, pour moi, elle se crée une fois qu'on a fait du branding personnel, une fois qu'on a fait sa marque d'entreprise, une fois qu'on a fait son storytelling, c'est là qu'on veut mettre en place des petites actions pour créer notre culture d'entreprise. Pas de panique, la culture d'entreprise, c'est pas quelque chose, on claque des doigts et on a notre culture d'entreprise, pas du tout, c'est quelque chose qui prend du temps, qui est adaptable, qui est modifiable dans le temps. L'idée, c'est juste que je vous en parle là maintenant pour que vous commenciez à réfléchir aux trois premiers éléments à mettre en place. Et au fur et à mesure du temps, voilà, peut-être que ça va mettre un an pour vous, que vous ayez une culture d'entreprise qui soit établie. Mais c'est important que vous vous y penchiez dès maintenant. Parce que, encore une fois, vous allez recruter vos salariés, vos premiers salariés. Vous n'allez pas avoir fait de branding personnel, vous n'allez pas avoir fait de marque personnelle, vous n'allez pas avoir fait de storytelling. Et automatiquement, vous ne pourrez pas avoir de culture d'entreprise. Ça va faire fuir vos recrues et ça va peut-être même faire en sorte que, tout simplement, quelqu'un parte de votre entreprise parce que la culture n'est pas définie. On ne sait pas quelles sont vos valeurs, on ne sait pas qu'est-ce qu'on est en mesure de faire ou pas dans cette boîte. Et concrètement, ça va repousser vos salariés et des futurs talents de venir. Si concrètement, je vous donne un exemple entre... deux boîtes, alors ça c'est un cas fictif parce que je ne me suis pas posée sur la question. Imaginons deux entreprises, une entreprise qui est visible sur les réseaux sociaux, une entreprise qui a raconté son histoire, quelque chose qui est personnel, qui est poignant, qui parle à la personne. Quelqu'un qui a une marque qui a été construite, qui n'est pas parfaite, mais voilà, avec des bases qui ont été mises en place. Une personne qui a fait un travail de branding personnel, c'est-à-dire qu'on a l'impression de la connaître. Et une personne qui, à l'opposé, n'a jamais rien fait de tout ça. À votre avis, un candidat vers quelle entreprise, de façon spontanée, va-t-il être attiré? Juste posez-vous cette question et je pense que vous serez convaincu de ce que je vous dis. Le sixième élément, alors ça c'est aussi intéressant, c'est qu'en fait, on ne se forme pas au management aux ressources humaines, de façon générale. Que ce soit d'ailleurs un créateur d'entreprise ou un entrepreneur qui est assez expérimenté, c'est quelque chose dont on pense qui est facile, qui est acquis et dont on développe des compétences et que c'est presque inné en fait. Et pour moi, c'est une grave erreur de faire ça parce que les ressources humaines, le management, c'est quelque chose qui s'apprend. Comme tout, je pense qu'en fait, il y a des choses qui sont pas compliquées. C'est pas compliqué, mais c'est pas parce que ce n'est pas compliqué, d'ailleurs, attention, que c'est facile à faire et qu'en un claquement de doigts, tac, c'est fait, on est formé au management, on est formé aux ressources humaines, pas du tout. D'ailleurs, l'idée de ce podcast, à la base, c'était de faire 30 minutes par semaine, en fait, d'un podcast suivi d'un article, pas d'un article sur le blog, mais d'une note sur le blog qui va vous permettre de développer des problématiques, des questions, etc. et de vous pencher, en fait, en 30 minutes entre le podcast et le petit travail personnel à faire pour développer vos connaissances en management et en ressources humaines. Ce qui m'invite aussi à vous dire que, dans le sixième point toujours, à vous développer personnellement, à faire du développement personnel. Vous ne pouvez pas être un bon manager si vous-même vous n'êtes pas développé en fait. Votre entreprise, ce qu'il faut que vous compreniez aussi qui est très très important, c'est que votre entreprise va être limitée à vous. Là je pense que c'est pas très clair ce que je viens de dire, donc je vais reformuler. C'est qu'en réalité, vous seul avez les capacités de faire évoluer votre entreprise. Alors oui, vous allez recruter des talents, peut-être des gens qui sont bien meilleurs que vous dans des domaines, peut-être même tout court bien meilleurs que vous dans votre domaine d'activité. Mais en fait, vous êtes le dirigeant de cette entreprise. Donc, si vous avez des croyances limitantes, vous ne pourrez pas développer votre entreprise au point où vous le souhaitez. Tout simplement parce que vous auriez ces barrières dans la tête et peu importe les personnes que vous avez dans votre boîte. Donc, c'est très important de faire en parallèle ce travail de développement personnel. Le septième point, c'est que on ne source pas ses candidats. Alors, le sourcing, je vais faire un petit briefing sur le sourcing. Le sourcing, c'est en fait, c'est aller chercher des candidats. Alors, quand vous êtes recruteur, généralement, vous cherchez des candidats de tous les moyens possibles. Alors, il y a une boîte qui faisait ça, qui cherchait des ingénieurs sur Tinder. Donc, pour vous dire à quel point ça va loin. Le sourcing, c'est en gros, tous les moyens que vous pouvez mettre en place pour trouver des candidats, des talents qui sont adaptés à votre entreprise. Alors, je vais simplifier le sourcing du coup pour vous. Je vous recommande pas de procéder de cette façon-là quand vous voulez faire du sourcing. Contentez-vous des personnes que vous rencontrez. À partir du moment où vous rencontrez une personne dont vous estimez les valeurs, dont vous estimez peut-être le travail, eh bien, restez en contact avec cette personne. Rajoutez-la sur LinkedIn, demandez-lui des nouvelles, notez-la sur un bout de papier, tout simplement, un fichier que vous allez garder. Pour le jour où vous aurez besoin de cette personne, de ses compétences, eh bien, tac, faites un entretien, vous évaluez cette personne, vous faites un test de personnalité, etc., peu importe. Qui va vous permettre de dire « Ok, est-ce que je vais la recruter ou pas ?» Et ce sourcing de base, ça va être votre élément pour tout simplement recruter plus facilement. Plus facilement. Le huitième élément, c'est la visibilité. La visibilité, pourquoi quand on crée une entreprise, on n'accorde pas d'importance à sa visibilité? Des fois, on n'a pas de site internet. Des fois, notre site internet n'est pas super top, il pourrait être amélioré. Des fois, on n'a pas du tout accès sur les réseaux sociaux. Et donc, tout ça faisant, votre visibilité, automatiquement, vous n'en avez pas. Or, si vous construisez dès maintenant votre visibilité, que ce soit pour vos clients ou pour vos salariés, automatiquement, vous allez attirer des personnes qui sont proches de vos valeurs, si vous avez fait, bien entendu, ce travail de branding personnel en amont, qui sont proches de vos valeurs et qui, potentiellement, vous pourrez les recruter. Donc, c'est assez important. Ce qui me permet de rebondir sur un point que je n'ai pas abordé sur le sourcing. En fait, aussi, ce que vous pouvez faire si vous voulez sourcer, augmenter vos visibilités, etc., c'est de faire en sorte de remarquer en fait les personnes qui vont interagir avec vous constamment, que ce soit dans la vie réelle entre guillemets ou aussi au travers des réseaux sociaux et de toute interaction quelle qu'elle soit. Remarquez aussi les personnes voilà, dans cette dimension là qui interagissent avec vous de façon intelligente, pertinente, concise, qui sont proches de vos valeurs. En fait, vous pouvez tout déceler. Pour moi, on peut tout déceler au niveau de l'écrit. Ça démontre vraiment la personnalité de la personne. Donc c'est quelque chose à faire, à ne pas négliger. Et je ne vous demande pas de le faire vraiment de façon journalière, etc. Mais en fait, rendez-vous compte de ça pour dans votre quotidien le faire. Et ces petites minutes que vous allez accorder petit à petit vont vous permettre au bout d'un an, de deux ans, quand votre entreprise sera développée, que vous serez peut-être en mesure de recruter, que vous aurez l'envie, etc., de tout simplement aller vers les bonnes personnes. Le neuvième élément, ça qu'on ne connaît pas forcément, c'est qu'en fait, il y a des zones qu'on appelle défiscalisées, ZRR, etc. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est juste pour vous donner un indicateur. Il y a certaines régions de France, villes de France, qui sont soumises à des dispositifs de défiscalisation et qui vous permettent, lorsque vous recrutez vos salariés, d'avoir une partie des charges qui sont allégées. Voilà, voilà. Donc, ça, on ne le sait pas forcément. On crée sa boîte en pensant, voilà, c'est plus simple de créer sa boîte et d'être chez soi. Des fois, c'est pas forcément le plus avantageux à faire. Et justement, reste à savoir si à côté de chez vous, vous pouvez pas forcément être domicilié dans un centre. Alors, je sais plus comment ça s'appelle. Vous savez, des domiciliations spéciales dans lesquelles vous allez avoir une adresse, etc. Et bien, certains de ces centres bénéficient de cette défiscalisation dont vous pouvez bénéficier, tout simplement, par effet de rebondissement. C'est ça, il faut le savoir. Généralement, on le sait pas. Quand on crée sa boîte, on ne nous le dit pas. Si vous allez peut-être voir un expert comptable, il ne va pas vous le dire forcément. Implantez-vous en fonction d'une zone défiscalisée parce que si vous avez envie de recruter des salariés, ça va être plus avantageux pour vous. Donc il faut le savoir automatiquement. Le dixième point à prendre en compte, c'est que bien souvent, on ne met pas en place des process. Alors, un process, qu'est-ce que c'est ? Pour vous expliquer de façon assez synthétique, c'est... je sais pas comment vous expliquer. Si par exemple, voilà, j'écris des articles de blog, le process que je peux mettre en place, c'est comment est-ce qu'on va écrire un article de blog si demain j'ai quelqu'un pour m'écrire mes articles de blog. D'ailleurs, soit dit en passant, mes podcasts sont retranscrits. Donc quand vous voyez des titres qui sont à peu près similaires sur mon blog, c'est qu'en fait c'est une retranscription de podcast. Donc du coup, ça me permet de dire merci Jennifer pour la retranscription des podcasts qui sont géniales. Donc voilà, vous mettez en place un process, en fait, ce qui va permettre à la personne qui va arriver de savoir comment est-ce que vous avez fait. Donc, par exemple, pour les articles, j'ai un process qui est en place qui me permet de définir le titre, qu'est-ce que je dois faire pour valider mon titre, qu'est-ce que je dois faire au niveau du SEO, etc., etc. Et donc, tous ces éléments vont permettre à une personne qui est, entre guillemets, novice dans le milieu, de suivre ce qui se passe dans votre tête. Parce que ce qui se passe, par exemple, dans ma tête pour la création d'articles n'est pas la même chose que ce qui se passe pour la création d'articles de Paul, par exemple. Donc, mettre en place ces process, c'est très important. Et c'est encore plus important que ça prend du temps et que les process sont améliorables de jour en jour constamment. Donc c'est aussi une chose que je vous invite à faire. Voilà pour les 10 éléments, j'espère qu'ils vous auront été utiles. Je vous invite également à me poser des questions, à me faire des retours. C'est quelque chose qui m'est assez utile pour savoir si les éléments que je vous partage sont intéressants pour vous ou non. Je vais vous faire un petit appel à l'action. Si vous avez aimé le podcast, vous pouvez mettre un avis sur iTunes. Vous pouvez aussi, si vous êtes un peu timide, m'écrire sur Instagram à ma future recrue. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bye bye.
Je vous remercie d'avoir été avec moi jusqu'au bout pour cet épisode. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Rendez-vous donc jeudi. En attendant, vous pouvez d'ores et déjà visiter le blog mafuturerecrue.com pour retrouver toutes les semaines un article qui va vous aider à mieux recruter et à mieux gérer vos salariés. À bientôt !